RCF.
Bonsoir à toutes et à tous, 18h10 ce vendredi sur RCF Cœur de Champagne, RCF Reims-Ardennes, déjà vendredi, que la semaine passe vite. Kylian, bonsoir.
Bonsoir Alexis.
Vous l'avez compris, il est là notre stagiaire à la rédaction pour nous accompagner, il est encore avec nous pendant 7 jours, c'est dire si le temps passe vite. Encore une fois, Jean-Pierre Benoît va nous rejoindre dans quelques instants, mais avant cela on va vous dévoiler le programme de cette soirée que l'on va passer ensemble, le technosolutionnisme, l'ennemi des écolo-décroissionnistes. C'est l'objet de la chronique d'actualité du professeur Jacques Cohen qui conclura sur ce titre que l'on vient de vous annoncer. Vous en saurez plus d'ici quelques secondes, il est déjà en ligne. Un maire qui nous parle, une maire ce soir plutôt, c'est Nadine Poulain qui est l'édile de Joncherie-sur-Vel dans la Marne qui sera avec nous. Et puis en deuxième partie d'émission, après le journal régional de 18h30, on ira faire un tour sur le chemin des crèches à l'église Saint-Alpin de Châlons-en-Champagne. 800 ans d'histoire de la crèche que nous connaissons sont à découvrir sur ce chemin des crèches. Une deuxième partie d'émission consacrée à la vie de notre diocèse, puisque après avoir évoqué le chemin des crèches, nous aurons deux invités qui se succéderont. D'abord, Mgr Étienne Véteux, évêque auxiliaire du diocèse de Reims et des Ardennes, qui posera son regard sur l'actualité de l'Église dans le diocèse de Reims et des Ardennes, mais aussi au niveau national et international. Et puis le père Denis Véju, qui a été nommé cette semaine administrateur du diocèse de Châlons, en attendant la nomination d'un nouvel évêque. Voilà pour le programme de ce vendredi soir. On espère que ça vous plaît, que ça vous donne envie de rester. En tout cas, nous, on est très heureux de vous accompagner jusqu'à 19h. Le vendredi, c'est Jacques Cohen, le premier à s'exprimer avec sa chronique d'actualité. Il est avec nous par téléphone. Bonjour, professeur.
Bonjour.
Et cette semaine, vous voulez nous parler de technosolutionnisme. Un mot un petit peu compliqué, professeur. De quoi s'agit-il ?
Alors, il s'agit d'un néologisme, effectivement, inventé par les écologistes et destiné à identifier et pourfendre leurs ennemis. Et je crois que c'est très révélateur, car il peut être repris comme un étendard par ceux-ci, parce qu'il n'est pas dévalorisant à leurs yeux, ce qui est une opposition farouche avec les écologistes décroissionnistes. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit de la très vieille idée, au fond, qu'il peut y avoir des solutions technologiques, des améliorations technologiques, il peut y avoir en quelque sorte tout simplement du progrès, comme l'espèce humaine l'a fait depuis ses tout débuts, et par exemple avec l'invention de la domestication du feu, pour résoudre les problèmes qui se posent à nous, et en particulier les problèmes de réchauffement et les problèmes de pollution. Alors c'est très vilain vu du point de vue des décroissionnistes, parce que d'une part ils disent que ça ne peut pas marcher, mais surtout parce que c'est de leur part un préjugé idéologique. Dire que l'on peut trouver des solutions autres que de se morfondre, de se flageller et d'entrer dans des spirales décroissionnistes ramenant à la lampe à huile, et encore la lampe à huile c'est pas bon pour le CO2, c'est très vilain pour eux parce que leur idéologie de la sobriété et de la décroissance est basée sur une idéologie de la passéiste qui est fondamentalement extrêmement réactionnaire sur un âge d'or passé, sur le besoin de tout restreindre, d'arrêter de faire des enfants, de réduire l'espèce humaine et ainsi, en quelque sorte, de lui faire quitter la planète où elle s'est invitée indûment du point de vue des écologistes idéologiques, de la secte écologique millénariste de la fin du monde, secte qui finalement n'est que le renouveau de nombreuses sectes religieuses, en passant des jansénistes aux cathares, aux hussites, à toute une version des réformés, et sans leur en faire une liste complète, globalement, de tous ceux qui considèrent que le bonheur, c'est très vilain pour l'espèce humaine, qu'il faut qu'elle souffre et qu'elle disparaisse. Alors ce genre d'idéologie fleurit en période d'inquiétude et de crise, c'est-à-dire justement quand l'espèce humaine bute sur un niveau technologique. Là, il s'agissait vers l'an 1000 des problèmes de population du globe, déjà, mais population du globe parce que la productivité de l'agriculture était très médiocre. De nos jours, c'est le contraire. Ces gens-là veulent, et ont obtenu par exemple dans le programme européen de la fourchette à l'assiette, de réduire la production, de réduire les rendements, Alors que si on veut justement préserver le paysage, préserver notre planète globalement, il faut avoir une productivité accrue pour nourrir les gens à partir d'une plus, toute la population du globe, à partir d'une plus faible surface cultivée, pour prendre que cet exemple-là. Et tout ça peut s'accroître parce que la férocité, si j'ose dire, de la dénonciation du technosolutionnisme, Libération, par exemple, a fait plusieurs pages sur un malheureux journaliste promoteur de la science sur M6 en disant que c'était une honte parce qu'il propose des solutions. Et ces solutions, pour eux, elles sont intrinsèquement impossibles et bidons, sinon leur idéologie ne tiendrait pas. Alors que très souvent, c'est le cas. Regardez, par exemple, la possibilité de résoudre les problèmes de manque d'eau par le dessalage de l'eau de mer, avec des rendements énergétiques acceptables, avec y compris une production électrique pour le faire, qui soit en panneaux solaires ou décarbonés, eh bien ça c'est très vilain pour les décroissionnistes. Les décroissionnistes, ils veulent réduire la population du globe, ils ressemblent, je vous l'ai dit tout à l'heure, au Qatar et à toutes les sectes empêchant, si j'ose dire, l'espèce humaine de jouir tranquillement.
Jacques Cohen, vous nous avez souligné le problème de l'eau, par exemple. Quelles sont les solutions dans le domaine de l'agriculture ?
Eh bien, par exemple, l'agriculture a besoin d'eau, ça, par définition. Elle a besoin donc pour cela d'utiliser la gestion et la régulation des nappes phréatiques par des bassines. Alors, je vois pourquoi les écologistes appellent ça des méga-bassines, parce qu'il n'y aurait pas des méga qui seraient très vilains, parce que gros c'est méchant, et des mini qui ne seraient pas. Et d'autre part, le raisonnement des écologistes est particulièrement stupide sur le sujet, puisque c'est que les bassines pompent l'eau des nappes phréatiques, il ne faut pas vider les nappes, etc., etc. Sauf que les nappes, elles vivent et elles respirent, et même elles débordent quand il y a trop d'eau. Et donc d'augmenter leur effet accordéon possible par des bassines est un béaba de gestion des nappes et en particulier de solutions pour l'agriculture. Donc il faut déjà gérer l'eau qui tombe du ciel. Et puis d'autre part, on peut dessaler. Et si les pays du Golfe ou Israël ont résolu leurs problèmes d'eau, de manque, alors qu'on pensait qu'un jour ou l'autre il y aurait la guerre pour les eaux du Jourdain par exemple, eh bien ce genre de choses est maintenant résolu technologiquement, depuis pas très longtemps, depuis une dizaine d'années, avec des rendements énergétiques acceptables, et je ne comprends pas pourquoi nous ne commençons pas à nous y attaquer, parce que sinon, avec le réchauffement, dans 20-30 ans, il n'y aura plus d'agriculture au sud de la Loire, ce qui serait une catastrophe. Sauf pour les écologistes décroissionnistes qui considèrent qu'il faut manger en cycle court, ce qui est produit non seulement sur place mais à un jour donné, et que de toute façon il faut tout réduire, il faut se serrer la ceinture en permanence et se morfondre dans son coin, en s'excusant auprès de la planète d'avoir les pieds sur elle. Or, nous pouvons très bien technologiquement résoudre le problème et maintenir l'agriculture dans notre beau pays, à condition de s'en donner les moyens et de le faire en recherchant et en trouvant les solutions technologiques.
Les conflits de ce genre, Jacques Cohen, cependant, ne peuvent-ils pas peut-être dériver, j'allais dire, et peut finir en conflit armé, par exemple ?
Mais exactement, parce que quand les écologistes disent qu'ils sont scandalisés par telle ou telle proposition qui ne leur plaît pas de la COP28 et autres, eh bien un jour ou l'autre, ils vont finir par expliquer que s'il y a trop de monde sur la planète et que les gens ne veulent pas se serrer la ceinture, il restera une solution, c'est de la leur serrer autour du cou. Et donc de réduire la population par des mesures contraignantes. La population de la planète, elle ne va pas croître indéfiniment, parce que notre espèce, comme toute, est régulée par des effets de densité. Et donc, on a un pic qui est un peu un problème sérieux, qui est que nous sommes autour de 8 milliards, que nous devrions monter jusqu'à 11, voire 12 milliards, et redescendre progressivement, parce que, déjà, dans un certain nombre de régions du monde, la natalité a diminué et la régulation est en cours, mais il reste des régions où ça croît énormément, et donc on va avoir un effet de pic qu'il vous faudrait gérer et maîtriser avant la redescente. Eh bien, je pense que la secte écologique finira par considérer, comme les libertariens survivalistes américains, que la meilleure solution pour réguler, c'est d'imposer aux gens de réduire la population, et finalement, la meilleure solution pour le CO2 et pour la pollution, c'est qu'il y ait moins de monde sur Terre, et que la meilleure solution à nouveau pour qu'il y ait moins de monde sur Terre, c'est de les abattre, c'est de faire la guerre. Vous faites ce qu'on vous réclame, ou sinon on vous tue, ce qui est le raisonnement. Je vous ai dit des libertariens qui seraient prêts, et les doux écologistes vont vite se révéler pas si doux que ça. Quand on voit déjà le niveau d'affrontement qu'ils assument et souhaitent sur un chantier d'autoroute ou de bassine, eh bien, si on leur donnait des armes plus efficaces, j'ai bien peur qu'ils ne s'en serviraient.
Pour conclure, Jacques Cohen, on peut le dire, le technosolutionnisme, c'est l'ennemi des écolos décroissionnistes, finalement.
Absolument, et je m'inscris dans ce courant, avec le productivisme, une autre insulte des écolos que je revendique fièrement. L'espèce humaine a jusqu'à présent cru au progrès, réussi à le réaliser et résoudre ses problèmes ainsi, et ce n'est pas une secte millénariste attendant ou revendiquant à peu de choses près la fin du monde qui devrait interrompre le cours du progrès et du bien-être de l'humanité.
Merci Jacques Cohen de nous avoir éclairé sur le technosolutionnisme et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle chronique d'actualité.
À très bientôt.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
18h21, on part dans une commune de la Marne ce soir, avec Kylian toujours qui nous accompagne, mais surtout avec Jean-Pierre qui est là, qui trépigne d'impatience. On va à Joncherie-sur-Vel avec Nadine Poulain, maire de la commune.
Nadine Poulain, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît, bonjour à tous les auditeurs.
Merci d'être avec nous. Alors vous êtes maire de Joncherie-sur-Vel. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter en quelque sorte un peu rapidement, parce qu'on a que 9 minutes, mais déjà votre commune, Joncherie-sur-Vel, une belle commune. Hein.
Alors Joncherie-sur-Vel est située sur la RN 31, environ 15 km de Reims. C'est une commune de 1910 habitants. Une commune de petite superficie, mais qui présente tous les services possibles, que ce soit les médecins, le paramédical, les commerces, les écoles. Et nous avons aussi le train qui permet aux personnes de la commune de se rendre à Reims et aux étudiants et aux lycéens. Voilà.
Alors c'est vrai que vous êtes maire depuis combien d'années, Nadine Poulain? Depuis quelques années déjà?
Oh non, depuis 2020, ça fait
depuis 2020.
Ans.
Mais vous étiez déjà au conseil municipal, vous avez toujours été intéressé quand même, j'allais dire par la chose publique, ça vous intéresse, vous étiez un peu passionné de votre commune.
Tout à fait. J'étais déjà au conseil municipal précédent et en plus j'étais secrétaire de mairie pendant plus de 18 ans dans la commune et dans les petites communes autour.
Ça veut dire que vous connaissez quand même tout le monde, hein, à vrai dire.
Tout le monde, c'est un bien grand mot. Vous savez, ça change quand même, il y a un turnover dans la commune, donc on connaît beaucoup de monde. Je dirais pas tout le monde, 1900, ça fait beaucoup quand même.
Oui, ça fait beaucoup, c'est près de 2000 habitants. Alors justement, est-ce qu'on peut caractériser votre commune aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore des agriculteurs? Est-ce que les gens travaillent à Reims? Est-ce qu'il y a aussi des arrivées de nouveaux venus qui s'installent à Joncherie?
Alors pour le moment, on n'a pas de nouveaux lotissements, ce qui devrait être le cas dans quelques années. Ce sont essentiellement des gens qui travaillent sur Reims et on a aussi environ 400 personnes de plus de 70 ans.
Et donc c'est une commune vivante. Vous-même, vous avez toujours été passionné. J'allais dire, comme on dit souvent, c'était peut-être un peu déjà dans votre ADN de vous occuper d'une mairie.
Alors m'occuper d'une mairie, je ne sais pas si c'était dans mon ADN, mais faire partie des associations, oui, très certainement depuis mon plus jeune âge. J'ai toujours fait partie d'associations et donc bon, tout naturellement, ça s'est terminé en haut du village.
En haut du village, là-bas, comme maire de Joncherie. Alors, il faut dire aussi qu'un maire est très souvent sollicité. Il y a même des maires qui refusent maintenant de prendre cette responsabilité parce qu'ils trouvent que c'est vraiment une charge. Vous partagez ce sentiment que c'est quand même lourd, quand même?
Alors, moi, c'est un petit peu particulier parce que je suis en retraite. J'ai beaucoup de temps libre, donc je me consacre beaucoup à ma commune et ça ne me pèse pas parce que j'aime vraiment ce que je fais. Je suis une passionnée du village, mais je comprends que certains maires, par exemple, quand il faut mener et la mairie et une profession à côté, ça doit être très difficile.
Alors vous êtes souvent sollicité, qu'est-ce qu'on vous demande? Souvent des petits services, on vous demande des renseignements, quand les habitants vous interpellent?
Oui, alors c'est souvent, on me dit, mais qu'est-ce qu'on peut y faire en mairie? Moi, j'y vais pas souvent. Eh bien oui, en mairie, on a beaucoup de passages, on a beaucoup de téléphones, et les personnes se rendent, essaient de s'intéresser aussi à la vie du village, donc on nous pose des questions sur la réfection des rues, il y a beaucoup d'urbanisme aussi, et puis de l'état civil, et puis, j'avoue que je ne suis pas trop dérangée en dehors des heures de mairie, et j'essaie de répondre à toutes les questions. C'est tellement varié que je ne pourrais pas vous faire
c'est très varié,
vous donner un échantillon.
C'est très varié, Nadine Poulain. Alors, c'est vrai aussi qu'il y a les communes, mais il y a maintenant les communautés de communes, il y a aujourd'hui le Grand Reims. C'est vrai que ça a changé un petit peu la donne, mais que la mère reste quand même un peu, bon, c'est un peu familier, mais la patronne chez elle quand même, malgré tout.
Moi, je considère que c'est vrai, je reste toujours maire du village avec des décisions à prendre. On a perdu certaines compétences, mais voilà, il faut faire la part des choses. Si on avait gardé ces compétences, je ne sais pas si financièrement on pourrait, par exemple, refaire une rue. Ça coûte aujourd'hui énormément, donc il faut prendre les avantages et les inconvénients.
Et aujourd'hui, justement, on peut examiner des projets qui sont en cours ou qui viennent de se terminer ou d'autres qui sont sur le gris. Vous avez plusieurs choses en ce moment que vous préparez ou qui viennent de se terminer?
Alors justement, quand on parlait de la communauté urbaine, aujourd'hui, on a en prévision la construction d'une école élémentaire, puisque celle que l'on a aujourd'hui est un peu trop étroite pour le nombre d'enfants. Donc merci, parce que sinon on ne pourrait pas le faire nous-mêmes. Vous avez dû entendre qu'il y avait une nouvelle gendarmerie.
Et oui, justement, je voulais vous interroger. Ça, une nouvelle gendarmerie, ça va quand même aussi changer aussi la donne.
Ah ben tout à fait, même au niveau de la sécurité, au niveau du village. En plus, elle va s'implanter sur une friche commerciale. Donc non, nous sommes vraiment très contents.
Il va y avoir des nouveaux arrivants aussi. Avec la gendarmerie.
Quelques nouveaux habitants, des gendarmes, et puis à la suite, un lotissement. Donc effectivement, on va avoir des nouveaux arrivants.
Ça, voilà. C'est une bonne nouvelle pour Joncherie.
Une bonne nouvelle
pour la commune.
Ce projet, par contre, sera porté par Reims Habitat et Mocop, parce que c'est eux qui auront la charge de la construction. En ce qui concerne la commune, notre gros projet de cette année, c'est la vidéoprotection. Donc il y aura l'installation d'une vingtaine de caméras dans la commune. Ça va débuter très bientôt.
Beaucoup de projets, beaucoup de choses en route. Une question qui vient souvent qu'on pose au maire, c'est qu'après le Covid, on a vu un certain nombre de gens qui étaient sur Reims ou dans la ville qui voulaient quand même habiter peut-être à la campagne. Vous l'avez, vous, observé, cette forme nouvelle d'arrivée?
Alors, on a surtout des personnes qui souhaitaient effectivement venir s'installer dans la commune. Mais compte tenu aujourd'hui du coût de l'emprunt et du coût des maisons, c'est très difficile. Pendant un temps, on ne savait même pas qu'une maison était à vendre. Aujourd'hui, on en a quand même quelques-unes.
Ça veut dire que là, c'est les taux d'intérêt qui jouent, les banques qui prêtent. C'est pas tellement le transport, finalement, parce qu'il y a aussi le coût du transport quand il faut se déplacer en voiture, mais c'est pas forcément ça non plus. C'est le coût quand même de l'habitation.
C'est certain. Oui, le transport, c'est vrai qu'on a, quoi, 15 km à faire pour aller à Reims, donc c'est pas forcément ça qui... On a le train aussi, donc c'est une alternative. Mais c'est surtout le coût aujourd'hui, avec les taux d'intérêt élevés, et puis...
Absolument. Voilà. En tout cas, on vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui, ça passe très très vite. Simplement, dans les semaines, dans les mois qui viennent, n'hésitez surtout pas à faire appel à nous, car en dehors de cette émission, on pourra bien sûr donner la parole, parce que quand la gendarmerie viendra, etc., il y a des superbes émissions à faire. Et la dernière question qu'on pose toujours à tous les maires, êtes-vous une mère heureuse quand même, malgré toutes les difficultés?
Eh bien oui, malgré toutes les difficultés, je suis une mère heureuse, parfois un peu débordée quand même, mais la fonction de mère est tellement enrichissante et passionnante que je ne peux être que contente. En plus, la fonction de mère, c'est qu'on l'a bien voulu, on ne nous force pas à être mère, donc je pense que si on n'y trouve plus son intérêt, effectivement, ça pose des problèmes. Mais moi, aujourd'hui, je suis une mère heureuse.
Merci en tout cas, Madame Nadine Poulain, qui était avec nous aujourd'hui dans l'émission Votre mère nous parle, et qui est maire de Joncherie-sur-Velle, dans le département de la Marne, à une quinzaine de kilomètres de Reims. Merci beaucoup, Madame la maire, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Puis à très bientôt sur RCF.
Bien sûr, merci à vous.
Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.
Et désormais, la pendule flirte avec 18h30. C'est l'heure du journal régional sur RCF. Les titres de ce vendredi 15 décembre 2023, la quatrième édition de la soupe des chefs organisée au profit de la fondation Alzheimer par le Lions Club Chalon-Vinay aura lieu ce samedi, découverte. Tous les deuxièmes lundis de chaque mois, le diocèse de Reims et des Ardennes vous initie au Père de l'Église, rencontre avec le Père Bruno Hayet qui anime ces soirées.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Pour la quatrième année consécutive, le Lions Club Chalon-Vinay organise son action caritative annuelle, la Soupe des Chefs, une initiative gourmande au profit de la Fondation Alzheimer qui vise à unir la passion de la cuisine et le désir de soutenir les chercheurs engagés dans la lutte contre cette maladie, une action qui touche personnellement la présidente de la commission Soupe des Chefs au sein du Lions Club Chalon-Vinay. Frédéric Muller.
Parce que mon papa a souffert de cette maladie et sa sœur également. Et ça m'a beaucoup affectée. Je me suis occupée de lui pendant 10 ans et ça me tenait énormément à cœur.
18 restaurateurs marnais se mobilisent ce samedi en produisant en moyenne 450 litres de soupe. Tous les profits générés par la vente de ces soupes seront intégralement reversés à la Fondation Alzheimer afin de soutenir plusieurs projets, notamment le village champenois que nous présente le président du club DAC, Débattre et Agir à Chalon, Gérard Berthiaud.
C'est inspiré sur un projet qui existe depuis 6 ans déjà aux Pays-Bas, qui existe en France dans une seule ville qui est à Dax dans les Landes, et avec mon club nous sommes allés en 2019 à Dax voir un petit peu comment les choses se présentaient. Il n'était pas encore construit, il était en simplement construction, il a été ouvert progressivement à cause du Covid, et donc nous souhaitons qu'il y ait ce type de structure de village pour patients Alzheimer, parce qu'on a fait le constat qu'entre le domicile et l'EHPAD, il n'y avait pas de structure qui pouvait prendre en charge certains types de patients atteints d'un maladie d'Alzheimer. Avec cette structure, avec ce village, faire en sorte que l'enfermement n'existe plus. Et ce que l'on sait aussi avec l'expérience des Pays-Bas, c'est que la sociabilisation de ce type de patients fait que la maladie ne guérit pas. Mais en tout cas, les symptômes se ralentissent et pour avoir une vie sociale la plus pertinente possible.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten. La quatrième édition de la Soupe des Chefs aura lieu ce samedi donc à Chalon-en-Champagne sur deux sites, le marché de Noël de 11h30 à 19h et au marché couvert à partir de 8h du matin jusqu'à 13h. Les amis de l'Ermitage Saint-Valfroy vous convient à leur après-midi de Noël. Le rendez-vous c'est dimanche à 15h à la salle polyvalente de Margues. On est dans les Ardennes évidemment. La chorale Cœur de Pierre animera ce temps convivial. Participation 5€ gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, bar et petite restauration sur place. Le diocèse de Reims et des Ardennes vous propose depuis le mois d'octobre, tous les deuxièmes lundis du mois, une initiation au Père de l'Église. Le Père Bruno Hayet, qui en est l'animateur, précise de quoi il s'agit.
Alors c'est dans le cadre des formations proposées par le service diocésain, donc grâce aussi à Cécile Milou et à toute son équipe. On s'était rendu compte qu'il y avait un vrai attrait pour les pères de l'Église, la patristique, donc un parcours cette année sur les pères apostoliques. Alors rapidement, nous avons commencé en octobre à regarder mais comment le symbole des apôtres s'est construit. En novembre, nous nous sommes retrouvés sur la personne de Clément de Rome, qui est le premier auteur apostolique après les apôtres. En décembre, la lettre aux Corinthiens de Clément. Et nous continuons notre parcours sur les pères apostoliques avec Ignace d'Antioche, Polycarpe de Smyrne, la Didaquée, pour finir par le canon des Écritures. Comment s'est-il fixé ?
Le rendez-vous est donné à la maison diocésaine Jules Bierry de Charleville-Mézières. Chaque séance est indépendante des autres. On peut suivre l'intégralité du parcours ou juste un bout.
Alors il y a un dossier qui est donné avec des documents. C'est-à-dire que par exemple pour Clément de Rome, nous allons travailler 5 extraits de son épître aux Corinthiens pour découvrir la place qu'il accorde au ministère. Puisque c'est Clément qui est le premier à parler des laïcs, ça n'existe pas dans le Nouveau ou l'Ancien Testament, et qui nous parle aussi de son regard sur l'unité de l'Église, dont il veut voir le modèle dans l'unité de la création et dans l'unité de la société.
Des propos recueillis au micro de RCF Reims-Ardennes. Les prochaines séances sont le 8 janvier, le 12 février, le 11 mars, le 8 avril et le 13 mai. Plusieurs rendez-vous sportifs sont à noter dans l'agenda et comme souvent, le basket et la Pro B sont les premiers à l'honneur avec le Champagne Basket qui reçoit Boulazac ce soir à 20h au Palais des Sports, Pierre de Coubertin de Châlons-en-Champagne. En Ligue féminine de basket, trois jours après le match nul en Eurocoupe féminine 71-71, les Flammes recevront de nouveau la Roche-Vendée demain à 20h pour le compte de la 11e journée à la Guinguette Arena évidemment. Toujours sur les parquets mais en volley cette fois, Chaumont se déplacera à 7 samedi à 19h30 pour tenter de conserver sa place de leader de la Ligue A. En football, Reims ira à Lens samedi à 21h30 pour la 16e journée de Ligue 1, tandis que Troyes recevra Angers à 19h samedi toujours pour la première de David Guillon sur le banc à l'occasion de la 18e journée de Ligue 2. En D1 Arkema, Lille reçoit Reims, c'est samedi à 14h30. Après l'agenda des sports, place à la météo du week-end avec notre stagiaire à la rédaction, Kylian Janot. Rebonsoir Kylian.
Rebonsoir Alexis.
Quelles sont les tendances pour ce samedi et dimanche Kylian?
Eh bien alors, en début de week-end, la Champagne-Ardenne sera sous l'emprise d'un brouillard. Les thermomètres afficheront 3 degrés. Pour ce samedi après-midi, le brouillard persistera. On aura une stabilisation du mercure à 6 degrés pour la Marne et l'Aube. Du côté des Ardennes, on observera un ciel nuageux accompagné de brouillard avec des températures comprises entre 5 et 6 degrés. Pour ce dimanche, le temps sera nuageux, mais pas de précipitations à prévoir. Du côté des températures, le mercure affichera 1 degré dans la Marne. Dans la matinée, l'après-midi, il fera 5 degrés à Vitry-le-François et 2 degrés pour la ville d'Épernay. Pour les Ardennes, les températures seront constantes tout au long de la journée. 2 degrés pour la ville de Rethel et 4 degrés pour Charleville-Mézières. Dans l'aube, vous retrouverez les thermomètres qui afficheront le chiffre 0 le matin, mais le mercure montera jusqu'au chiffre 5 pour l'après-midi. Ce week-end, n'oublions pas de souhaiter une bonne fête aux Alice pour ce samedi ainsi qu'aux Gaël pour ce dimanche.
Eh bien, bonne fête aux Alice. Alors, merci Kylian d'avoir été avec nous et puis aux Gaël également pour dimanche. On vous retrouve la semaine prochaine, 18h10.
Bien sûr.
Ainsi se referme ce journal, le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Châlons. Charleville-Mézières.
Un petit peu d'histoire. Cette année, l'exposition 1223-2023 aux origines de la crèche à l'église Saint-Alpin de Châlons-en-Champagne retrace les 800 ans d'histoire de la crèche que nous connaissons tous aujourd'hui. Les visiteurs pourront découvrir une vaste exposition de crèches de plus de 100 pays différents avec un focus sur Châlons à l'époque médiévale. Pour nous en parler, Sabine Bourbrock, adjointe à la mairie de Châlons et co-organisatrice de cette exposition avec Christopher Fausten.
Bonjour Sabine Bourbrock.
Bonjour Christopher.
Cette exposition Chemin des crèches, une crèche qu'on retrouve ici depuis plusieurs années déjà, Sabine Bourbrock.
L'exposition de Saint-Alpin, en effet, remonte à l'an 2000. Oui. Et c'était un souhait de la paroisse. Donc, à l'époque, c'était François de Mianville qui en était le curé. Et avec une équipe de paroissiens, ils nous avaient sollicité pour faire une exposition de crèche. Évidemment, l'an 2000 était une année exceptionnelle, puisque c'était le 2000e anniversaire de la naissance du Christ. Et cette exposition avait tout son sens et nous avions fait une exposition avec des paroissiens bénévoles. Nous avions à l'époque découvert les vitrines du musée que la ville avait bien voulu nous prêter et nous avions monté ce chemin des crèches, ce premier chemin des crèches. Depuis, nous n'avons jamais interrompu. Alors, il y a eu la période de travaux de Saint-Alpin où l'exposition s'est déplacée pendant quelques années. D'accord. À Notre-Dame, à la collégiale, mais dès que les travaux ont été finis, nous sommes revenus à Saint-Alpin. C'est vraiment le lieu idéal. On est en cœur de ville, c'est une église qui est très fréquentée dès qu'elle est ouverte. Et donc, c'est vraiment un point d'orgue au cœur du marché de Noël. C'est très intéressant de pouvoir organiser l'exposition des crèches et, bon, pour ma part, de témoigner de ce à quoi je crois.
Cette exposition qui compose plusieurs crèches sur une surface assez importante.
Alors, nous exposons dans l'ensemble de la nef de l'église, donc que nous avons débarrassée de ses chaises, et qui cette nef accueille 13 vitrines. permet de réunir 230 crèches. Et cette année, l'exposition est tout à fait particulière. Nous sommes en 2023 et il y a 800 ans, en 1223, François d'Assise a demandé au pape Honorius III l'autorisation de célébrer la première messe de Noël la nuit autour d'une crèche, et de là est née toute cette dévotion et cet essor de la crèche. Alors évidemment, la crèche de François d'Assise, c'est une crèche vivante, puisqu'il réunit dans la chapelle de Greccio un âne, un bœuf, et elle aménage une mangeoire. Mais de là est née après toute une tradition de représentation. D'abord les peintres, on pense à Giotto qui peint les fresques d'Assise, très peu de temps après la mort de François d'Assise, mais aussi au monastère qui diffuse des crèches. Et donc les franciscains notamment sont très attachés à la crèche et vont propager ce mouvement des crèches dans toute l'Europe, en Italie bien sûr, mais très vite en France. Et c'est un mouvement qui connaît un plein essor, qui va se développer évidemment après la Révolution, puisque les crèches d'église ne sont plus accessibles au public, les églises sont fermées, donc on a une tradition de crèches domestiques qui naît à cette époque-là et qui sera entretenue au 19e, puis au 20e, sans discontinuer, et maintenant elle touche vraiment tous les pays.
Merci Sabine Bourbrock de nous avoir accompagnés dans cette émission.
Bon Noël à tous. Merci de cette invitation. J'ai toujours plaisir à parler de Noël.
Je vous rappelle que vous êtes adjointe à la mairie de Châlons-Champagne et co-organisatrice de l'exposition Chemin des crèches. Avant de nous quitter, Sabine, pouvez-vous nous rappeler les horaires de l'exposition ?
Alors, les horaires sont très simples. Tous les après-midi, de 14 à 18 heures en semaine, et les vendredis, samedis et dimanches, sauf le jour de Noël, nous accueillons le public jusqu'à 19 heures, de 14 à 19 heures.
Merci Sabine Bourbrock et Christopher. Depuis l'église Saint-Alpin de Châlons-en-Champagne, l'exposition sera ponctuée de concerts, de chorales les vendredis et samedis avec l'association des Amis des Orgues de Châlons-en-Champagne.
Le 18-19 sur RCF.
Deux rencontres, deux invités pour terminer cette émission. D'abord, comme tous les vendredis, en alternance avec Mgr Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes, nous retrouvons son auxiliaire, Mgr Étienne Véteux. C'est lui qui était au micro de Jean-Pierre Benoît ce matin sur RCF Reims-Ardennes pour poser son regard sur l'actualité de l'Église dans le diocèse et à travers le monde.
Mgr Étienne Véteux, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous et à toutes.
Vous êtes en direct avec nous ce matin depuis Reims, depuis les studios de RCF. Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai qu'on va feuilleter un peu l'agenda de ces derniers jours et puis on va regarder un petit peu l'agenda des jours prochains.
C'est parfait.
Vous avez participé il y a quelques jours à un rassemblement des séminaristes de France et parmi eux, il y avait bien sûr des séminaristes de Reims et de la région.
C'est ça, il y a 10 jours, il y avait une belle initiative. Tous les séminaristes de France étaient rassemblés à Paris pendant 4 jours. Nous étions 600, et il y avait 600 séminaristes. Donc, en fait, quand on fait le décompte, ce n'est pas immense. Ça fait 6 séminaristes à peu près par diocèse. Mais c'était un beau moment pour les séminaristes pour se retrouver, voir qu'ils n'étaient pas seuls, prier ensemble, créer des liens. Et puis nos propres séminaristes étaient là, comme vous disiez. Eux sont formés dans 2 lieux différents, même 3 lieux différents, puisque ceux qui apprennent le français sont à Besançon, les autres sont à Paris et certains sont à l'abbaye de la Grâce. Donc pour eux, c'était un bon moment pour se retrouver. Moi, j'étais frappé du fait que les séminaristes aujourd'hui sont très différents. On en voit en chemise, on en voit en col romain, on en voit en tunique presque religieuse, mais avec beaucoup, beaucoup d'unité et de fraternité entre eux.
Monseigneur, rappelons à nos auditeurs que nous sommes aussi suivis sur YouTube en ce moment, en direct, pour celles et ceux qui veulent de l'image. On vient d'évoquer les séminaristes, on peut évoquer aussi la vie religieuse, parce que samedi dans le diocèse, il y avait une journée diocésaine.
C'est ça, tous les ans, il y a une journée de la vie religieuse ou de la vie consacrée dans le diocèse. Il y avait, donc c'était samedi dernier à Croquemontreuil, chez les Clarisses, il y avait une 60aine de personnes, ce qui est une belle réalisation. Quatre communautés contemplatives étaient représentées, les quatre du diocèse, 14 communautés apostoliques, donc des femmes, et la plupart, il y a aussi une communauté masculine, et puis une communauté mixte, le homme-femme, qui les apostoliques sont plus au service de l'Église locale, et surtout dans sa dimension de pauvreté. Et puis il y avait à peu près huit religieuses qui provenaient du diocèse de Chalon, et ça fait partie des perspectives d'avenir. Nous allons essayer d'approfondir nos liens avec les religieuses et les religieux du diocèse de Chalon.
Monseigneur, il y a les journées diocésaines, mais il y a aussi sur le plan national un intérêt porté aussi par les évêques sur la vie religieuse et sur les responsables religieux. Vous avez participé, c'était une rencontre nationale qui avait lieu à Paris?
C'est ça. La conférence des évêques de France a organisé mardi une rencontre de formation pour les évêques et les responsables des communautés religieuses. Nous étions l'archevêque Monseigneur de Moulins-Beaufort et moi-même. Et l'idée, c'était, au fond, c'est l'importance de la vie religieuse pour l'Église. La vie religieuse, c'est un moment de concentration de vie chrétienne. Les religieux ne sont pas mieux que les laïcs, mais la manière de vivre leur vie chrétienne est concentrée. Je dirais, si on veut prendre un exemple, c'est un peu comme un concentré un concentré de légumes ou de bouillon que l'on met dans quelque chose et qui permet de donner du goût à tout le reste. Et ça montre aussi que finalement, les évêques continuent à se former. Ils sont en formation permanente. Et là aussi, c'était une belle occasion de rencontrer d'autres collègues et d'apprendre les uns par les autres.
Alors évidemment, vous préparez aussi des événements qui vont avoir lieu dans l'avenir, en particulier avec les jeunes, ce qu'on appelle jubilaté. Alors on peut peut-être rappeler que c'est un rendez-vous important, ça, pour les jeunes.
C'est un des rendez-vous centraux du diocèse. C'est un des moments où tout le diocèse est invité et convoqué. Donc jubilaté 14-15 mars de cette année pour les jeunes de 12 à 18 ans. Nous avons eu une première rencontre une rencontre de préparation cette semaine. C'est un moment où les jeunes se retrouvent, ils prient ensemble, ils reçoivent des enseignements, des jeux aussi, il y a des spectacles. Quelque chose auquel ça vaut le coup de se préparer et noter la date parce que comme je disais, un des événements de l'année du diocèse.
14-15 mars 2024, le festival Jubilaté. Si on feuillette un peu l'agenda pour regarder les jours prochains, et en particulier dimanche, vous allez être présent à FIM, Monseigneur, car il sera question de rencontres avec des diacres, ou des futurs diacres.
Alors, à FIM et à Tinqueux, il y aura l'institution au ministère, donc le ministère institué de deux futurs diacres qui, eux, seront ordonnés à l'été. Moi, personnellement, je serai à Tinqueux. Et puis, le père Jean-Pierre Laurent célébrera le même type de célébration à FIM. Donc, il y a deux diacres qui se préparent pour le mois de juin, ou en tout cas pour cet été. Et puis, il y a quatre autres diacres qui commencent leur formation et qui probablement seront ordonnés dans les prochaines années.
On aura bien sûr l'occasion d'y revenir, Monseigneur. Ce sont des rendez-vous importants dans la vie diocésaine. Alors si on regarde un petit peu l'avenir encore un petit peu plus près, on va anticiper parce qu'on approche de Noël. On imagine au moment de Noël que ce soit le dimanche, le 24 ou le jour de Noël, vous allez vous trouver dans le diocèse à plusieurs endroits. Le jour de Noël, il serait question de Sedan, si je ne me trompe pas. Peut-être.
Alors il y a une particularité cette année, c'est que Noël tombe le soir, la veillée de Noël tombe le soir du quatrième dimanche de l'Avent. Le calendrier liturgique fait cela. Donc je serai à Sedan pour la messe du quatrième dimanche de l'Avent le 24 matin. Et puis ensuite, je serai chez les Clarisses à Courmontreuil pour la messe du soir, 23h, avec une veillée qui commence avant. Et le lendemain matin pour la messe du jour de Noël à Igny. Donc ce sera c'est là qu'on voit aussi comment la vie religieuse et la vie du diocèse s'interpénètrent et se fortifient mutuellement.
On imagine que ces derniers jours, vous avez sillonné encore, la preuve avec cet agenda, le diocèse en tous sens, Monseigneur, vous découvrez. Mais là, déjà, depuis un certain temps, vous faites de belles rencontres, de belles découvertes.
Alors, il me manque encore la pointe de JV. J'aimerais bien y aller bientôt. Mais de fait, j'étais de nouveau à Sedan hier. J'étais à Rethel pour le concert de la maîtrise dimanche dernier. Je me prépare aussi au concert de la maîtrise ce soir.
Ce soir à la cathédrale. Oui.
Magnifique, je suis très très frappé par la beauté évidemment, et puis la diversité des chants qui ont été proposés, de plusieurs langues, de plusieurs origines, de plusieurs types de musique, et par la formation que ça donne à ces jeunes, des collégiens par exemple ou des lycéens qui sont capables de chanter en solo devant plusieurs centaines de personnes, c'est une formation humaine pour la vie.
Et ils garderont certainement en mémoire ces souvenirs inoubliables. C'est ce soir, d'ailleurs rappelons-le, vous avez raison de le souligner, Monseigneur, c'est ce soir à la cathédrale sous la direction de Sandrine Lebec, qui est venue récemment ici, et qui est quelqu'un de passionné et qui transmet sa passion avec les jeunes. Monseigneur, on aura aussi l'occasion de nous retrouver, on en reparlera, ce sera dans une quinzaine de jours, où là, vous apporterez peut-être une contribution un peu plus méditative, en tout cas une réflexion, une homélie relativement courte, bien sûr. Monseigneur.
C'est ça, oui. Nous serons entre Noël et le jour de l'an. Nous pensions ensemble, Jean-Pierre, que ce serait une bonne occasion de parler de la question de la paix, de l'apport du monde chrétien à la paix.
Merci, Monseigneur. Merci, Jean-Pierre.
Le 18-19 sur RCF.
Et cette fois, on termine avec le père Denis Véju, doyen à l'espace missionnaire de l'Abri et anciennement vicaire général. Il a été nommé cette semaine administrateur diocésain suite au départ de Monseigneur François Touvet au diocèse de Fréjus-Toulon. Retour sur le parcours du père Denis Véju et sa vocation, c'est au micro de Loïc Marc.
Bonjour père Denis.
Bonjour à tous.
Père Denis, quel est un peu votre ressenti face à cette nomination?
J'ai bien dormi déjà, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que je ne suis pas écrasé par l'angoisse devant la lourde charge qui m'incombe aujourd'hui. Je suis dans la paix et en même temps j'ai conscience de la lourde charge qui est celle de conduire le diocèse en absence d'évêque, en attente d'un nouveau pasteur. Et j'ai bien conscience aussi que ma manière de me situer comme vicaire général doit changer. Parce que je ne suis plus vicaire général, je suis administrateur du diocèse, hein, avec la charge de le conduire dans la communion. Et puis c'est pas parce qu'on est en attente, en espérance d'un nouvel évêque que la mission s'arrête. Donc je suis moteur en quelque sorte aujourd'hui de la mission et de la communion pour notre église diocésaine.
Justement, la vacance du siège épiscopal donne aux personnes qui ont la responsabilité de gérer le diocèse en bon père de famille. Votre rôle va vraiment être un rôle plus administratif ou quand même aussi un peu pastoral?
Eh bien, c'est on va dire les deux. Mais il n'y a pas d'administration qui ne soit au service de la pastorale dans l'église. Donc c'est d'accompagner la vie pastorale en gérant en quelque sorte les affaires courantes du diocèse, voilà. Hein. Mais il y a bien une visée pastorale parce qu'il faut qu'on continue à avancer sur le chemin de la mission. Il ne faut pas qu'on s'arrête.
Et vous n'êtes plus vicaire général, mais vous restez doyen de l'espace missionnaire de l'Abri. Comment allez-vous, si je peux le dire, cumuler ces mandats au quotidien, dans votre vie de tous les jours, par rapport à vos rendez-vous, à votre équipe de prêtres? Comment allez-vous répartir les missions entre vous?
Alors, de fait, je vais être beaucoup plus présent à Châlons, à l'évêché, et dans les missions d'administrateur diocésain. Donc, on va dire presque, pas absent, mais beaucoup moins sur place, sur l'espace missionnaire de l'Abri. Mais justement, notre évêque, il a tenu à mettre en place des équipes de prêtres pour qu'on puisse porter ensemble la pastorale. Donc mes confrères vont pouvoir travailler de manière efficace, avec moi évidemment un peu plus éloigné, mais en même temps toujours présent et portant toujours au cœur la mission sur l'espace missionnaire qui m'avait été confiée. Hein. Mais donc j'ai toute confiance, vraiment toute confiance, dans les prêtres, les équipes qui sont en place sur l'abri pour continuer la mission avec moi un peu plus distant.
Un peu plus distant, mais restant présent. Et pour combien de temps ? Savez-vous un petit peu de votre contrat ? Est-il une date limite ?
Eh bien non. Donc on ne sait pas pour combien de temps. C'est là, en quelque sorte, la difficulté hein, de cette mission. Et puis, en même temps, moi, je sais que, par exemple, les week-ends, pour les célébrations, je vais continuer à être présent chaque fois que je ne suis pas demandé pour un service diocésain. Sur d'autres paroisses, je vais continuer à être présent sur l'abri.
Oui, on aura la chance d'échanger avec vos paroissiens aussi, qui pourront nous dire comment ils vivent cette nomination. Parce que je pense que pour l'instant, vous avez dû recevoir beaucoup de messages, de personnes qui vont être contentes.
Absolument. Hein, c'est surtout des messages de félicitations, mais aussi d'encouragement,
hein, voilà.
de communion, de prière. Parce que chacun sait que j'ai besoin d'être soutenu et d'être aidé dans cette mission.
Être soutenu et être aidé, justement, l'évêque a aujourd'hui des conseils, conseil presbytéral, conseil épiscopal. Le droit canonique dit que vous pouvez vous appuyer sur le collège des consulteurs pour vous aider. Est-ce que vous avez droit, entre guillemets, d'avoir d'autres conseils, personnes sur qui vous pouvez nommer pour vous conseiller ou uniquement cela ?
Alors, il y a le collège des consulteurs et puis il y a le conseil diocésain pour les affaires économiques qui sont maintenues. Maintenant, il m'appartient de voir avec mes collaborateurs qu'est-ce qu'on met en place pour avoir régulièrement des avis et des partages sur la vie diocésaine, que ce soit avec les doyens, que ce soit avec les responsables de services et de missions diocésaines. Donc, c'est en train de se mettre en place. L'idée, c'est que je porte pas la responsabilité tout seul, mais que je suis accompagné tant pour une vision d'ensemble de l'Église diocésaine dans toutes ses dimensions que pour des prises de décision.
Père Denis, on va revenir un peu sur vous et votre parcours. Un article dans Le Monde disait, en 2011, « Son nom restera dans les annales du diocèse ». On peut le dire aujourd'hui. Donc si je vous donne une date, le 26 juin 2011, qu'est-ce que ça vous rappelle ?
Ça me rappelle la date de mon ordination presbytérale à la cathédrale de Châlons. La raison pour laquelle les choses avaient été présentées de cette manière dans la presse, quand j'ai été ordonné, c'est qu'il y avait eu 14 années sans ordination dans le diocèse de Châlons. Donc j'étais la première ordination presbytérale depuis 14 ans. C'est quand même pas rien. Hein. Et j'avais d'ailleurs été la première ordination diaconale de l'évêque qui venait d'arriver, Monseigneur Louis, également.
Qui vous a ordonné prêtre aussi.
Eh bien voilà, qui m'a ordonné prêtre avant d'ordonner 3 autres prêtres. Donc j'ai entamé une série de quelques ordinations.
Et justement, parlez-nous un peu de votre parcours. Vous avez été prof de musique, vous avez été diacre permanent. Vous avez un peu plusieurs vies, si on peut dire.
plusieurs vies, je ne sais pas. Mais en tout cas, un parcours un peu singulier, c'est vrai. Première passion était autour de la musique. Et puis en même temps, une relation très forte avec le Seigneur. Et donc, j'ai gardé ces deux passions, la recherche d'une vocation, d'une vie donnée au Seigneur, et puis en même temps, la place de la musique. Et en réalité, les deux dimensions ne s'opposent pas. La musique a en fait développé en moi une forme d'écoute intérieure, la prière, et donc elle m'a conduit à faire un cheminement vers dimension spirituelle qui est la dimension du Carmel. Voilà, les gens ne le savent pas forcément, je suis engagé comme séculier dans l'ordre du Carmel. Voilà, c'est la troisième branche du Carmel, en développant en quelque sorte ma capacité à écouter. Mais de manière plus intérieure, c'est l'appel à la prière qui a grandi en moi. Et puis en grandissant dans l'appel à la prière, l'appel d'une vie vraiment totalement consacrée au Seigneur, avec cette dimension d'annonce de l'Évangile que je pouvais pas faire dans un collège dans un collège laïque, dans un collège public, évidemment. J'étais un peu, j'avais du sparadrap sur la bouche, hein, moi, pour parler de Jésus. Et ben, ça a fini par me manquer énormément. Et donc, j'ai ressenti, au cœur d'un premier appel, qui était un appel diaconal, j'ai ressenti cet appel à un engagement pour moi encore plus fort, puisque j'étais célibataire, et donc à m'engager dans le sacerdoce. Mais je crois que c'est surtout le fait que j'étais bridé dans mon témoignage, dans ma manière de parler de Jésus, dans mon métier, alors que c'était un aspect important de ma mission diaconale, qui a fait que tout s'est ouvert, en fait, avec le désir de me consacrer totalement et de pouvoir parler de Jésus, de pouvoir mener sur la rencontre avec Jésus. C'est quand même pas facile dans un collège public.
Merci Père Denis d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci beaucoup.
C'était le Père Denis Véjus et Loïc Marc depuis le studio RCF à Châlons en Champagne. Ainsi se referme ce magazine régional. On vous souhaite un très bon week-end en compagnie des programmes de RCF. Kylian, vous l'avez dit tout à l'heure, mais on vous attend de pied ferme la semaine prochaine pour les 7 derniers jours à passer avec nous. D'ailleurs, puisqu'on se retrouve lundi, il n'en restera plus que 5.
Et oui, il sera une semaine très enrichissante.
Eh bien, on l'espère, et puis vous nous direz la semaine prochaine comment vous avez vécu votre stage au sein de la rédaction. On vous retrouvera notamment jeudi soir prochain pour en parler. À toutes et à tous, merci pour votre fidélité. Très bon week-end en compagnie des programmes de RCF.